JDL TV, les nouveautés au JDL 2024. Pour en parler, nous avons accueilli des intervenants majeurs qui nous présentent quelques nouveautés du salon. Avec Mathieu Daul, directeur Liber Gru Mobile France, Wim Leroy, directeur commercial Maeda, Vincent Leguet, directeur IMS et Paolo Balugani, CEO Valamanitex.
Nous vous retrouvons maintenant pour la première thématique des JDL sur le plateau TV. Et nous allons parler des grandes nouveautés de cette édition 2024 avec quatre invités qui sont avec nous. Alors, à ma droite, nous avons Mathieu Daul. Et Mathieu, vous êtes directeur de la division Gru Mobile France pour la société Liber. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
À vos côtés, vous avez Wim Leroy. Bonjour Wim. Vous êtes de la société Maeda et vous êtes directeur commercial pour la France. Vincent Leguet, vous êtes le dirigeant de la société IMS. Et à vos côtés, nous avons Paolo Balugani, le CEO de la société Vala, qui nous vient d'Italie. Bonjour Paolo. Allez. Je commence avec vous, Mathieu. Cette année, au JDL, Liber présente un produit qui est sa nouvelle grue 400 tonnes, la plus puissante du marché.
Je confirme que dans cette catégorie, en effet, c'est la machine aujourd'hui la plus puissante et surtout la plus moderne du marché. Elle remplace notre 350 tonnes, qui était un produit qui s'est très bien vendu partout dans le monde. Donc, ses spécificités, c'est une grue sur 6 essieux avec une flèche de 70 mètres et des très grosses capacités de levage.
Aujourd'hui, l'accent, il a été mis sur quoi, sur cette grue?
Alors, l'accent, il a surtout été mis sur la simplicité de mise en œuvre de la grue. C'est-à-dire que, par exemple, c'est une grue qui dispose de haubans pour rigidifier la flèche et qui est aujourd'hui un système de haubanage qui peut se mettre en un seul coup de crochet. La grue est très vite en configuration de travail, ce qui est une grosse différence par rapport à la grue précédente.
Et au niveau du contrepoids?
Nous avons également un nouveau système qui s'appelle le varioballast hydraulique qui existe déjà sur la 450 tonnes et la 650 tonnes qui nous permet en fait de faire varier le rayon de giration de 7,60 m à 5,60 m, ce qui nous permet, en fonction des configurations de chantier, de faire évoluer la configuration de la grue de manière très rapide.
Côté motorisation, est-ce qu'il y a eu aussi des évolutions?
Oui, en effet, par rapport à la 350 tonnes, qui avait deux moteurs, un moteur pour le porteur, un moteur pour la tourelle, la 400 tonnes n'a maintenant plus qu'un seul moteur, avec une transmission mécanique pour alimenter la tourelle, ce qui la rend beaucoup plus économe, plus facile à maintenir en activité également.
Est-ce qu'il y a des aides à la conduite pour les utilisateurs?
Alors, il y a effectivement pas mal de nouveautés sur ce sujet-là, puisque aujourd'hui, nos machines, qui sont des machines qui circulent sur la voie publique, sont maintenant équipées de tous les systèmes que vous connaissez sur les voitures particulières, puisque nous avons maintenant des surveillances d'angle mort, nous avons également des régulateurs de vitesse. Et ça, c'est vraiment nouveau. C'est une nouvelle norme. Hein. En Europe, on est tenu de s'y conformer à partir de 2025. Donc, il faut savoir que Liber est prêt sur l'ensemble de sa gamme déjà à se conformer à cette norme.
Donc là, maintenant, on peut aller dès la fin de l'interview, aller vous rencontrer et puis aller découvrir le produit.
Tout à fait. Le produit est sur notre stand. C'est la première fois en France. Ouais. On est ravis de vous la présenter.
Bon, alors on ira voir ça juste après notre émission.
Avec grand plaisir.
Wim Leroy, Maeda, c'est une marque de, rappelez-nous,
de mini-grue. On joue dans une autre ligne que nos confrères de Liber.
Et donc vous nous présentez aujourd'hui au JDL une nouvelle mini-grue araignée. C'est ce qu'on a pu voir en passant tout à l'heure.
Oui.
Alors qu'est-ce qu'elle a de plus?
C'est un modèle à flèche cassée, flèche articulée, il faut le dire.
Cassée, articulée.
Ça veut dire, hein? Et en plus, elle est totalement électrique maintenant, à base d'une batterie lithium-ion, très fiable. En effet, elle dispose d'une deuxième flèche télescopique, angle négatif. Donc, ça explique le concept de la flèche articulée. Elle est complètement radiocommandée, pas seulement pour le bruitage, mais aussi pour la translation et la stabilisation. Le concept, il faut le dire, n'est pas nouveau. Il existe déjà chez nos confrères, mais pour l'instant, ce concept, par sa complexité, est plutôt réservé aux prestataires spécialisés. Avec Maeda, on mise plutôt sur les loueurs, et donc je crois que les loueurs vont apprécier le fait que maintenant, avec la stabilisation multipose et proportionnelle, avec l'écartement variable de chenille, et surtout avec tous les mouvements automatisés, qu'on arrive à se démarquer de nos confrères et qu'on met sur le marché un produit qui plaît aussi bien aux artisans qu'aux loueurs.
Le concept de cette double flèche.
Comme toutes les mini-rues, on arrive de se positionner le plus près possible de la charge. Et puis avec la flèche cassée, on arrive à surmonter les obstacles entre la rue et la charge en question. Donc ça, c'est le grand avantage de cette flèche cassée. Avec la stabilisation multipose, avec la flèche en deux parties, on arrive à répondre à n'importe quel problème d'accès sur les chantiers. Ça, c'est le grand but.
Vous avez précisé qu'elle était électrique tout à l'heure. Alors, ma question, et la grande question que tout le monde se pose, c'est son autonomie, parce que sur un chantier, c'est un petit peu le nerf de la guerre, c'est l'autonomie.
Exactement. Nous, on indique une autonomie de 7 heures dans un cycle simulé. Un mix de translation, de stabilisation et de cruttage. Le grand avantage, c'est qu'une fois stabilisé, on peut brancher sur secteur et continuer à travailler. On propose aussi un pack batterie sur roulette qu'on peut brancher sur la rue qui a la même capacité énergétique que la rue de base, que la batterie de base, et qui fait donc doubler l'autonomie, ce qui est très intéressant pour des chantiers lointains ou avec des grandes distances. Et en plus, ce pack batterie s'adapte aussi aux autres modèles tout électriques dans la gamme Maïda.
Oui, donc on peut avoir plusieurs grues de votre marque et acheter,
exactement.
Et acheter le pack batterie en complément en fonction du chantier.
Exactement. Et à chaque fois, on double l'autonomie.
Pour les artisans, vous nous avez dit, pour la rénovation, pour des charpentiers.
Toutes les mini-rues sont plutôt adaptées pour la pose de vitrage, pose de charpente, la rénovation quand il n'y a plus d'accès, les planchers à faible charge. Et avec cette rue-là, on peut plaindre pas uniquement aux artisans en direct, mais aussi par les loueurs. Donc les loueurs maintenant qui ont toujours eu une réticence un peu initiale par rapport à ce concept peuvent maintenant profiter pleinement des avantages de la double flèche et la fiabilité et la sécurité, la maniabilité surtout des creux Maïda qu'ils connaissent déjà dans leur gamme.
On peut aussi l'avoir sur votre stand.
Exactement. On a... Comme nos confrères, on a le premier modèle pour le marché français exposé sur notre stand. On a d'autres commandes qui vont venir jusqu'à la fin de l'année. Mais en toute première française, on a la rue sur notre stand.
Donc, on passe la voir tout à l'heure. Je me tourne vers vous, Vincent Le Guay. Vous êtes le président de la société IMS. Rappelez-nous l'activité d'IMS et puis après, qu'est-ce que vous nous présentez de nouveau au JDL ?
IMS, c'est une entreprise française, cinquantenaire, 51 ans cette année. Notre savoir-faire, c'est la manutention de charges lourdes au sol, en proposant sur le marché différentes technologies. C'est du ripage sur coussin d'air, c'est du marcheur hydraulique, et puis c'est du rouleur de manutention, dont on va parler davantage tout de suite. Alors, le rouleur de manutention, tout le monde sait ce que c'est. Hein, on a un élément directionnel en tête. On a une ligne fixe arrière, trois points de pose, c'est modulable. La révolution dans les années 90, ça a été de motoriser l'élément directionnel avec un groupe hydraulique, des câbles, des flexibles, c'est-à-dire qu'on avait une gestion périphérique qui n'était pas toujours confortable. Puis avec l'évolution des batteries et notamment début 2000 avec l'arrivée du lithium, on était un des précurseurs à installer du lithium en 2000, ça a permis de rendre complètement autonome le concept motorisé, c'est-à-dire qu'on a supprimé groupe hydraulique, les flexibles, tout ce qui est liaison filaire pour avoir quelque chose de complètement autonome. Donc c'était vraiment là le gros intérêt de la technologie lithium associée aux engins de manutention. Disons qu'on était toujours sur trois points, donc depuis des années pour répondre aux besoins de nos clients. Et c'est la nouveauté aujourd'hui, c'est que l'on propose un concept modulable de rouleur motorisé où nous avons deux unités motrices en tête qui sont complètement autonomes. Ça permet, comme c'est modulaire, ça permet d'appréhender des charges dont le volume est plus important que si on était sur trois points uniquement. C'est-à-dire que quel que soit le volume du colis et sa configuration, on va pouvoir jouer sur les entraxes des différents points de pose. Mais la grosse innovation, c'est que les deux éléments moteurs en tête sont synchronisés par une électronique avec une seule radiocommande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liaison filaire entre les deux unités motrices en tête. Il n'y a pas d'éléments mécaniques qui les solidarisent. La synchronisation se fait par l'électronique avec une seule radiocommande. Alors c'est pertinent parce que ça permet de se déplacer sur deux axes, X, Y. Ça permet de pivoter sur 360 degrés lorsque les éléments suiveurs disposent de roues pivotantes. C'est ce que l'on a sur le stand. On pourra venir assister à des démos là aujourd'hui. Et ça permet aussi à un industriel de pouvoir réunir ce kit modulable sous un châssis mécano-soudé et donc de pouvoir posséder un outil de manutention clé en main en fonction du besoin, alors soit de l'industriel, soit du prestataire qui, de par son métier, appréhende des charges de volume et de poids complètement différents.
On parle de volume ?
Puisqu'on arrive à doubler le système moteur et de le synchroniser, ça permet aussi de doubler les capacités par rapport à la gamme qui existait jusqu'alors. Et aujourd'hui, on peut appréhender le déplacement de colis de 80 tonnes.
On peut peut-être passer de 40 à 80.
40 à 80 tonnes, avec la modularité, avec la possibilité de se déplacer dans des zones exiguës, parce qu'on a ce côté omnidirectionnel qu'on avait moins avec le concept 3 points, tout en restant sur la batterie rechargeable, donc quelque chose qui est complètement autonome.
Combien de temps de près l'autonomie ?
Alors l'autonomie, on a privilégié, si vous voulez, des batteries qui sont compactes et qui puissent être également facilement manipulables par un opérateur manuellement. Alors c'est l'intérêt du lithium parce qu'on est sur une technologie où le poids est léger. On est sur environ 4 à 6 heures en fonction, encore une fois, de la complexité des manœuvres et des mouvements. Mais encore une fois, on a une continuité d'utilisation tout simplement en permutant le pack batterie. C'est-à-dire qu'on est sur du plug and play, c'est sans outillage. On vient déconnecter une prise rapide. On vient retirer le pack, on le remet en recharge et on vient raccorder le suivant.
J'invite aussi tous les visiteurs à aller vous voir.
Alors, bien entendu,
pour une démonstration.
Une démonstration, essayez effectivement. C'est la première fois que cet outil est proposé et présenté. Hein. Donc, il faut en profiter, c'est une réelle nouveauté.
On passera vous voir.
Merci, vous êtes bienvenue.
Merci, Vincent. We're going to carry on this roundtable in English with you, Paolo Balugani. You are the CEO of the Vala company, an Italian company. So what's new in your company?
Historical company providing from ever pick and carry solution. In the last 15 years, developing the full electric version of the pick and carry crane. Pick and carry crane is mainly used in the internal situation, internal management, internal maintenance. Okay, and in particular, we are present in the French market in the last 40 years now. What about news? For us is a relevant addition of JDL because we finalized the relaunch. The company now is presenting a full set of cranes starting from 1.8 ton to 15 ton, okay, with four different type of crane, starting with the entry level is from 1.8 ton to 2.2 ton is the manual crane. It means that you have a very useful and simple steering system that you can drive the crane by your hands. Okay, starting from there, we have three models in this range. We have 60 models in the radio controlled range, starting from 3.6 ton to 15 ton. Okay, we have a cabin version, okay, that is other 11 model from 5 ton to 15 ton. And the last range is a carry deck range, it's a special crane, always full electric. Because a crane provided by O-Triggers too, it means that you have the capacity to pick the load and travel, or if you prefer, you can put down the O-Triggers and do the classic operation with the load bearings, like all the other crane is without the load bearings.
I've read in documentation that you have a new software.
You're talking probably of one of our best unique selling point is the vertical mode. Vertical mode because, as I told you before, pick and carry crane are always used in a narrow space, and you need to be precise to the best ways possible. Okay, and while you have the winch application, the load going up and down in perfect vertical condition, when you have hook or other system, is always difficult for the operators using the two joystick and maintain the perfect vertical condition. We use the software. You use the mechatronic that is on board.
Okay. Just one joystick?
And we have one joystick, the perfect vertical condition of the hook. And this is really is a big support to the operators in every kind of condition you need. The other USP that we have introduced is the E-Chain Hook, that is the enhanced holding valve, is the development of the hydraulic valve, keeping still the boom that was developed with one of the best suppliers we have in Italy for chattering valve. And this is create the maximum capacity for the boom to stay in the same position and to use a very fine movement because oftenly we that our customers asking this kind of type situation. For example, we are changing a lot of engine in the aircraft for maintaining, and while you put out and you put down the engine, it will stay in the same position for 3 hours without any millimeter of change of level. Eh?
No movement.
Because to keep this crew with the special crew, they need the time, and this is really some tricky situation, but we solve in a brilliant way.
Okay, so high precision for the new crane.
Yeah.
Thank you, Paolo. So we can have a look on your product.
Sure. It has 5 units and some option to the master, to our customer.
We say we'll visit you. So thank you, everyone. Merci à tous les quatre. Nous nous retrouvons pour ce début d'après-midi sur la JDL TV pour parler de biocarburant. Et nous allons voir si ce carburant, nouveau carburant, a toujours le vent en poupe. Avec deux invités, Étienne Valtel de la société Altens. Bonjour Étienne.
Bonjour Marion.
Et avec Erol Saint-Titas, négociateur en biocarburant pour la société Falaise. La France est un des pays aujourd'hui qui a le plus développé le biocarburant. Il en existe plusieurs types. On en avait déjà parlé l'année dernière. On avait fait plutôt un bilan un peu plus technique. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous donner quelques éléments de marché? Depuis un an, qu'est-ce qui s'est passé? Ça évolue positivement, négativement? Où on en est?
Effectivement, on est parti de pas grand-chose, parce que ces solutions sont encore relativement nouvelles. Il faut imaginer que c'est depuis 2018 que les biocarburants sont autorisés pour être vendus purs pour des flottes de transporteurs, etc. Donc depuis 2018, il s'est passé beaucoup de choses. Il a fallu faire connaître ces produits. D'abord le Bessan, grâce à la force agricole de la France. Donc ça, c'est plutôt un grand succès. Le marché est toujours très dynamique, mais aussi parce qu'on a su ajouter des nouvelles solutions biocarburants à ce Bessan. Typiquement le HVO100, qui est un produit un petit peu plus flexible, on va dire. On pourra y revenir après. Donc cette diversification des offres et cette dynamique a supporté le marché. Alors, ça reste marginal dans l'univers des produits fossiles. Il faut imaginer que le monde du transport, si on se focalise sur le transport, c'est 9 millions de mètres cubes de gazole. Aujourd'hui, on estime le biocarburant entre 400 et 450 000 mètres cubes. Donc, on reste sur une goutte d'eau, mais c'est une goutte d'eau qui quand même commence à se ressentir sur le marché, puisqu'on était à zéro il y a 6 ans. C'est des produits qui ont su répondre à des attentes des utilisateurs. D'abord parce qu'on se rend compte qu'on a un besoin de décarbonation qui est de plus en plus important et qu'un seul produit ne suffira pas à répondre à tous les usages. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on sache au fur et à mesure étendre ce panel de solutions. Je vous ai donné quelques tendances de marché. Si on se réfère par rapport à l'année dernière, on peut dire que par exemple sur le HVO, on estime que le marché a presque doublé. Donc c'est quand même une dynamique forte et on espère que ça va continuer dans les années à venir.
On peut faire un rappel rapide entre HVO et Bessan?
Bien sûr. Alors le Bessan, c'est celui qui a le plus de recul sur le marché français.
Mais ça a été le premier.
Exactement, tout à fait. Maintenant, c'est plutôt un produit justement très français. C'est-à-dire que les autres pays européens reconnaissent beaucoup moins le Bessan, ce qu'on peut retrouver justement sur les homologations de motorisation. On pourra y revenir après, mais effectivement, c'est des grosses tendances. Donc le Bessan, c'est un ester, donc c'est un produit chimique, basiquement, qui est compatible avec les moteurs diesel, mais qui n'est très différent chimiquement entre un gazole et le Bessan est un autre produit. Le HVO, au contraire, c'est vraiment le frère jumeau du diesel, donc c'est un gazole, mais un gazole synthétique. Et c'est justement ce qui fait sa facilité d'usage et sa compatibilité avec toutes les motorisations diesel existantes.
Erol, chez Falaise, vous êtes distributeur de carburant.
Oui.
Donc tout type de carburant, à la fois fossile et du biocarburant.
Biocarburant, tout à fait.
Depuis quand vous proposez à vos clients, qui sont des transporteurs, du biocarburant?
Nous commercialisons du carburant depuis une trentaine d'années. Et depuis 3 ans, donc, nous avons pris le virage des biocarburants. Et on a fort, on est plusieurs confrères, être incontournable un petit peu dans le milieu des biocarburants. Et depuis 3 ans, on a démarré avec le Bessan initialement. Et depuis 1 an et demi, on s'était un petit peu lancé également dans l'XTL.
On a une très bonne dynamique. Je rejoins un petit peu Étienne sur le fait que les biocarburants ont pris une vraie dynamique depuis un an et demi, chez nous en tout cas. On n'est pas loin sur le baissant d'être aux alentours de 8 millions à 9 millions de litres à l'année, ce qui est quand même assez considérable pour un biocarburant qui initialement était très difficile à imposer auprès des transporteurs.
Alors, est-ce que oui, vous donnez le mot imposer ? Est-ce que certains sont venus avec cette demande d'avoir quelque chose d'autre que des énergies fossiles ?
Initialement, en fait, c'est plus par obligation, très honnêtement, qu'ils sont arrivés au biocarburant en raison de la transition énergétique, la décarbonation, etc. Et le fait, en effet, que depuis 2018, le baissant, on est un petit peu ce recul, le côté de ne pas avoir de problèmes techniques, mécaniques sur les camions ou chez les transporteurs, nous a quand même un petit peu facilité la tâche. Donc, initialement, c'est vraiment le changement qui faisait peur un petit peu aux utilisateurs. Et on se rend compte, avec le recul, avec les utilisations de gros groupes, etc., de transporteurs, que ça fonctionne et qu'on n'a pas de problème particulier avec le baissant et encore moins avec l'XTLDR.
Là, vos clients, ils vont pas racheter des véhicules pour accueillir le baissant ou le HVO. Donc, ils font du rétrofit.
En fait, il y a deux possibilités. Soit c'est des camions ou des véhicules qui sont déjà donc dans le parc en flotte captive, sur lequel donc on peut réaliser un rétrofit. Ou c'est des nouveaux camions déjà prêts au baissant, bloqués baissant et qui roulent uniquement au baissant. Oui. Parce qu'il est possible de faire en fait un rétrofit en flexible, ce qu'on appelle un flexible. Il roule à la fois au gasoil parce qu'il n'est pas disponible en pompe, donc lorsqu'ils ont des grands trajets, de pouvoir se réapprovisionner, et également au baissant, donc qui est une facilité en fait pour les transporteurs. Donc ce sont les deux formules qui sont en général retenues selon le besoin du transporteur. Je dis le besoin parce que selon les zones à accéder en ZFE, par exemple, s'ils ont besoin d'un critère 1, donc là, ils vont acquérir un nouveau camion, un nouveau véhicule bloqué baissant pour pouvoir accéder à ces ZFE, par exemple.
Ah oui, on est obligé d'être sur un véhicule 100% baissant.
Exactement, bloqué baissant, uniquement, pas de gasoil, classique.
Vous mettez à disposition la cuve ?
Oui, ça dépend des transporteurs. Hein. Il y a certains qui ont déjà une cuve, qui avaient plusieurs cuves et qui en ont dédié une donc, au baissant ou à l'XTL. Hein. Et d'autres qui n'ont pas de cuve, pardon, qui ont l'habitude d'avoir des cartes, vous savez, AS24 ou autres, hein, pour aller s'approvisionner. Nous installons donc les cuves, des mises à disposition selon leurs besoins, 10, 15, 20, 30, 40, 80 mètres cubes. Ça dépend de la flotte à reconvertir.
Est-ce qu'il y a du partage avec d'autres transporteurs qui vont aller se ravitailler sur une cuve, un point central ? Pas très loin de leur dépôt.
Alors ça, c'est la bonne nouvelle de l'année, c'est-à-dire qu'il y a eu des arrêtés qui sont parus à la fin de l'été pour alléger un petit peu les usages de ces nouveaux carburants. C'est-à-dire qu'initialement, on avait un cadre réglementaire assez strict, ce qu'on appelle la notion de flotte captive. Hein. En fait, il fallait pouvoir connaître l'usage défini du nombre de camions, etc. Il fallait qu'ils appartiennent à celui qui détenait la cuve, etc. Donc ça, c'était un cadre un peu trop strict, qui était très bien pour démarrer, pour tester, et justement, ce que disait mon confrère, montrer qu'il n'y avait pas de problème technique et qu'il n'y avait pas des centaines de camions en panne sur les routes. Mais globalement, à partir du moment où on a prouvé que ça marchait, il fallait un petit peu déverrouiller ce système. Donc un arrêté est paru en fin d'été pour permettre justement le partage de cuves, soit avec des sous-traitants, soit en intragroupe, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de transporteurs, de sociétés qui sont intégrés avec des filiales régionales. Et donc, il n'y avait pas de raison que la filiale du Nord, quand elle descend dans le Sud, ne puisse pas se ravitailler sur la cuve de la filiale du Sud. Donc voilà, ça, c'est des cas d'usage qui ont été ouverts depuis récemment.
2 mois.
J'en profite aussi pour dire que sur la partie XTL, ça va encore plus loin, puisque maintenant, le XTL est autorisé en station publique. Non seulement les professionnels, mais aussi les particuliers vont pouvoir utiliser ces produits-là. Et puis, plus largement, toutes les flottes au sens large, professionnelles, hein, que ce soit les véhicules des commerciaux, les véhicules utilitaires légers, etc. Donc là ça va permettre un renforcement des cas d'usage de ces produits.
Là, quand on va avoir cette flexibilité, on va retomber toujours dans la même obligation d'avoir un véhicule rétrofité même pour le XTL, d'aller s'approvisionner.
Le XTL ne nécessite pas de rétrofit. C'est l'un des arguments en faveur du XTL par rapport au B100, même si après, le rétrofit se gère très bien. Donc, ce n'est pas en soi quelque chose de complexe. Mais par contre, pour un particulier, effectivement, lui ne va pas rétrofiter et faire des dépenses sur son véhicule pour utiliser un biocarburant. Donc, l'avantage du XTL à la pompe, c'est celui-ci. La majeure partie des véhicules diesel existants aujourd'hui sur le parc sont compatibles.
Aujourd'hui, il y a une différence de prix. Déjà entre le diesel et un biocarburant, et puis entre les biocarburants.
Alors ça, c'est une grosse problématique. Non, mais effectivement...
Donc c'est plus cher.
C'est plus cher, mais je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, penser qu'on va faire une transition énergétique moins chère que du fossile, ce n'est pas possible. Ou alors, il faut des aides de l'État qui, aujourd'hui, on le voit bien, n'est plus en capacité d'aider cette transition. Donc, la transition énergétique a un coût, donc le biocarburant est plus cher. Ceci dit, il existe effectivement des cadres fiscaux différents d'un produit à l'autre, mais on pourrait élargir. Hein. C'est vrai pour les biocarburants, mais c'est vrai pour l'électrique, l'hydrogène, le gaz, etc. Les fiscalités ne sont pas alignées. C'est quelque chose qui va sûrement devoir être revu dans les années à venir. Il y a une directive européenne qui demande l'alignement des fiscalités sur les énergies. Donc je pense qu'il va y avoir un peu de renouvellement sur cette politique-là en France. Mais aujourd'hui, en gros, le B100, qui est le produit franco-français, est très aidé fiscalement, ce qui explique que son prix est assez abordable et est tout à fait comparable au TCO d'un engin diesel. Par contre, le HVO, lui, n'est pas du tout aidé. Et donc, on se retrouve avec un surcoût par rapport au gazole qui reste assez limité, puisqu'on parle de l'ordre de 15 à 20 centimes du litre. Donc, ça reste acceptable, tout est relatif, parce qu'on est dans une période économique qui est complexe. Donc la question qu'on peut toujours poser, c'est au final, qui paye cette transition? Ben, il n'y a pas de secret, il faut bien que ce soit le consommateur final qui soit capable d'absorber ce surcoût. Et là, se retrouve toute la complexité de la chaîne pour transférer les surcoûts de nous, distributeurs d'énergie, jusqu'au client final qui achète un bien de consommation en supermarché, etc.
Donc le prix, finalement, le B100 étant un peu moins cher, l'offre, enfin, en tout cas la demande, est plutôt sur le B100.
Il y a des demandes pour les deux produits, en fait, en biocarburant, que ce soit le HVO XTL ou le B100. Après, tout dépend un petit peu des clients des transporteurs, parce que vous avez certains grands groupes, pour en citer quelques-uns, La Paire, etc., donc, qui souhaitent que leurs transporteurs utilisent du biocarburant et parfois font même un effort... au niveau des coûts de transport pour leur rajouter, contribuer entre guillemets pour les aider à utiliser des biocarburants. Et vous avez d'autres transporteurs qui, eux, sont pour répondre à d'autres appels d'offres où ils exigent des biocarburants ou une manière de décarboner qui peut être de l'électrique, qui peut être un biocarburant, donc qui n'ont pas forcément le retour ou d'aide financière, qui préfèrent aller sur du B100 parce que ça coûte un petit peu moins cher que le HVO et que le gazole classique. Parfois, on a certains clients qui utilisent les deux produits de l'HVO et du B100. Donc, ça dépend un petit peu des moyens, ça dépend un petit peu des investissements sur les nouveaux camions qu'ils peuvent avoir parce que un camion bloqué B100 il coûte un petit peu plus cher qu'un camion classique, etc. Donc, ça dépend vraiment des typologies, des activités de chaque transporteur. Ou du consommateur, en fait, oui.
Et en termes de disponibilité, parce qu'on entend aussi il n'y aura pas assez de biocarburant pour tout le monde. C'est aussi pour ça qu'il y a d'autres énergies, comme l'hydrogène, l'électrique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà des problèmes de disponibilité ou pas sur l'un ou l'autre des biocarburants?
Non, aujourd'hui, on est plutôt dans l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on est plutôt en surproduction européenne. Donc, il faut bien comprendre.
Européenne.
Tout à fait. Mondiale même, je dirais. On peut élargir, mais le gros point de consommation est l'Europe. C'est elle qui est un peu en avance sur l'usage des biocarburants au sens large dans les transports. Justement, l'Europe avait de grandes ambitions et les industriels ont investi pour mettre en place des unités de production et pour aussi accroître la capacité de production des usines déjà existantes. Or, il s'avère que depuis la crise ukrainienne, l'Europe a un peu revu. Alors, pas dans les directives, hein, on a toujours les mêmes objectifs, mais les pays qui ont transcrit les directives dans leur réglementation nationale, elles, parfois, ont revu à la baisse les objectifs nationaux. Je pense à la Suède, qui est passée de 30% d'incorporation à 6% l'année dernière, parce qu'elle trouvait que, justement, ça coûtait trop cher aux usagers. Donc ça, ça pose des problèmes, et c'est toujours la problématique des visions politiques. Un industriel, il a besoin d'avoir une vision éloignée, une vision, voilà, exactement, long terme. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a aussi la problématique que le marché diesel baisse. Et souvent, les objectifs d'incorporation sont faits par rapport à une assiette qui est la consommation de carburant fossile équivalente. Donc, quand on est dans un marché diesel qui baisse, bah forcément, l'incorporation qui va dans ce marché, bah, elle baisse aussi. Aujourd'hui, on a un déséquilibre offre-demande. On sait qu'il va être rééquilibré à l'horizon 2026-2027. Mais présentement, en 2024-2025, on sait qu'on est en surproduction et assez net.
Comment aujourd'hui, on peut améliorer le bilan carbone d'un biocarburant ? Globalement, c'est 70% de baisse, de réduction des émissions de gaz à effet de serre quand on utilise un biocarburant ?
La baisse d'émissions, elle ne vient pas du biocarburant lui-même, mais de la façon dont il a été fabriqué. Souvent, on a tendance à dire, et peut-être que l'ADEME n'est pas assez, on va dire, pédagogique sur justement les facteurs d'émissions associés au biocarburant. Il faut bien comprendre que ce n'est pas le B100 qui est à moins 60, l'UXTL à moins 83, c'est plutôt le B100 de colza et un XTL base huile alimentaire usagée. Maintenant, si on change les matières premières utilisées pour produire ces biocarburants-là, on va changer totalement le facteur d'émission. Donc, il y a plusieurs solutions pour améliorer les bilans carbone des biocarburants. C'est de travailler sur cette matière en première, qui est le gros du bilan carbone de ces solutions-là. Et la deuxième solution, c'est de travailler sur le process. Alors, je vais plutôt me concentrer d'abord sur cette partie matière première, parce que finalement, c'est l'action la plus significative qui permet d'améliorer les choses. Alors, sur la partie agricole...
Le colza, par exemple.
Le colza, typiquement, il existe maintenant un B100 bas carbone qui est fait à partir de graines de colza bas carbone. Ce n'est pas un coup de baguette magique qui permet de déclarer une graine de colza bas carbone. C'est qu'il y a eu tout un travail sur la parcelle agricole qui permet non pas de relâcher du CO2, mais au contraire de faire du stockage de CO2 dans le sol. Et c'est ce stockage qui va être répercuté sur la graine qui a été produite sur cette parcelle et qui, tout au long de la chaîne justement de production jusqu' chez le transporteur, on s'aperçoit qu'on peut améliorer. Alors, classiquement, un B100, c'est à moins 60. On peut aller à moins 80, moins 90% de réduction de CO2 sur un B100 bas carbone.
Donc voilà, c'est vraiment la production.
Tout à fait.
Alors, et après, c'est toute la chaîne de valeur dans le process aussi de fabrication.
Qui va répercuter, effectivement.
C'est tout le process qu'il faut prendre en compte, en fait. C'est pas simplement le produit fini, en fait.
Oui, c'est pas ce qui s'échappe du véhicule.
Exactement.
Comment on peut aider les transporteurs à basculer sur ces biocarburants ?
Déjà par le recul, l'expérience sur le B100, par exemple, ça fait depuis 2018 que le produit est utilisé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de problème technique, il n'y a pas de problème mécanique. En fait, ça fonctionne vraiment bien, d'une part, et d'une autre part, justement aussi, comme je le disais tout à l'heure, en mettant à disposition une cuve, en participant financièrement au rétrofit, en participant financièrement au surentretien, parce que lorsqu'on utilise le B100, par exemple, au lieu de faire la vidange à 120 000, on devra le faire à 80 000 ou 60 000, ça dépend des constructeurs, des marques. Nous, en fait, fournisseurs qui aidons, c'est même pas l'État qui nous aide dans cette démarche-là, c'est nous qui aidons les transporteurs à passer à ce biocarburant-là. Mais le plus gros des défis, c'est de les mettre en confiance, en fait, de leur dire, écoutez, ça marche, c'est un produit fiable, disponible, et qui décarbone et qui coûte moins cher par rapport au gasoil classique. Je parle en particulier pour le B100. Mais, les habitudes ont la dent dure,
faire des retours d'expérience.
Je peux comprendre en même temps, parce que c'est leur outil de travail, c'est un camion en panne, c'est de l'argent perdu, c'est un chauffeur à payer, etc. Donc, c'est assez difficile, mais au fur et à mesure, on se rend compte maintenant, aussi par le fait que les normes RSE, le fait de décarboner, les appels d'offres où ils exigent des biocarburants ou la décarbonation, nous facilitent quand même depuis 2 ans, la tâche.
Oui, il y a aussi 2 autres points. Il y en a un qui est sur la visibilité. Moi, j'aime bien parler toujours de visibilité. Il faut qu'à un moment donné, l'État donne un cadre qui soit assez pérenne. On l'a vu lors de la crise ukrainienne, le gaz s'est envolé et tous les transporteurs qui utilisaient les camions gaz se sont retrouvés un petit peu le bec dans l'eau, à devoir supporter des coûts faramineux tout seuls, bien souvent lâchés par leurs donneurs d'ordre. On a vu des parcs de véhicules gaz rester sur les parkings. Donc quand il n'y a pas d'accompagnement sur des énergies de transition, sur des énergies nouvelles, ça peut poser effectivement des problèmes. Parce que quand l'essentiel du marché est toujours sur une base gasoil, celui qui se détache de cette base, en fait, il est en risque. Donc comment on gère ce risque côté transporteur? Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, là, il est côté encore plus politique. Il y a des objectifs chez les donneurs d'ordre, des objectifs internes, bien souvent, qui ont du mal à être associés finalement à un budget. Il faut que les donneurs d'ordre soient capables de mettre un coût associé à cette transition. C'est pas toujours facile. Mais nous, quand on entend que des transporteurs ont un besoin de transition mais qui ne va pas être accompagné par son donneur d'ordre, c'est quand même assez embêtant parce que je pourrais vous expliquer le processus de transformation d'une graisse alimentaire qui va être collectée par petits bidons et qui va être transformée en gazole de synthèse. C'est quand même plus complexe que prendre du pétrole brut qui arrive par cargo de 100 000 tonnes au Havre et qui va être transformé en diesel. Donc il faut bien comprendre que tout ça, il faut bien que quelqu'un paye. Et ça ne peut pas être le transporteur tout seul, parce qu'on sait déjà que lui, il a des marges réduites. Donc il faut qu'il soit accompagné, y compris dans le long terme. Alors sur nos solutions biocarburants,
il y a des aides.
Il y a des réversibilités, donc c'est pas dramatique. Quoique sur du B100 irréversible, si un jour il y a un changement de fiscalité, un changement de réglementation, quid du rétrofit vers le diesel à nouveau. Donc ça pose pas mal de questions sur qui paye.
Il y a des aides ou pas?
Alors il y a une aide sur le B100 exclusif, qui est une aide sur le suramortissement du véhicule, qui permet, et c'est que sur celui qui est exclusif, ce qui limite un peu les cas d'usage. Et encore, pour que ça ait un intérêt d'avoir un suramortissement, il faut que l'entreprise gagne de l'argent.
Ce n'est pas forcément toujours le cas.
Ce n'est pas toujours le cas dans les entreprises de transport, surtout actuellement.
Merci, monsieur. Je vous retrouve très vite pour un prochain plateau sur la thématique du transport exceptionnel. À tout à l'heure et merci.